7.9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 1er avril, bonjour Laurence Thomas.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la ristourne à la pompe. L'entrée en vigueur aujourd'hui de la remise de 15 à 18 centimes sur chaque litre de carburant. Promesse du gouvernement pour soulager le budget des automobilistes. Automobilistes que nous écouterons dans une minute. Les autres titres, Laurence.
L'Europe sommée par la Russie de payer son gaz en rouble et non en euros. Moscou menace de fermer les vannes d'approvisionnement. Quelles sont nos réserves ? Pour combien de temps ? Nous verrons cela avec Laurent Kramer. Élection législative en Hongrie dimanche. Viktor Orban, favori, a mis son amitié avec Vladimir Poutine en sourdine après être allé sécuriser son approvisionnement en gaz à Moscou. Les élections en France, J-9 avant le premier tour. Une majorité de Français réclament des mesures pour le bien-être animal. Nous verrons dans ce journal les propositions de Nicolas Dupont-Aignan. Et à la fin de ce journal, visite du nouveau musée Albert Kahn, rénové après 6 ans de travaux. Il rouvre demain à Boulogne-Billancourt.
Les invités et rendez-vous d'Inter ce matin. 7h45, le débat éco avec Thomas Piketty et Dominique Seux. Ce matin, inflation, pouvoir d'achat, la campagne présidentielle apporte-t-elle des réponses à la hauteur? Et puis 8h20, suite de notre série des 12 grands entretiens avec les 12 candidats à l'élection présidentielle. Ce matin, la candidate de lutte ouvrière, Nathalie Arthaud, que vous pourrez largement interroger lors de cet entretien spécial. Vous en avez maintenant l'habitude. J'attends vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter. Elle était promise par le gouvernement, la remise d'au moins 15 centimes à la pompe entre en vigueur aujourd'hui. En métropole, elle montera en réalité jusqu'à 18 centimes TTC par litre de carburant. Au moins 90% des stations les plus grosses devraient appliquer cette remise dès aujourd'hui. Et dans les plus petites stations, la ristourne ne sera visible qu'une fois les stocks renouvelés avec de l'essence au prix bradé. De quoi en tout cas soulager jusqu'à fin juillet les automobilistes confrontés par la flambée des prix à la pompe depuis des mois et sur fond de guerre en Ukraine. Thomas Giraudeau.
À Brie-Comte-Robert, petite ville en banlieue parisienne, pas de trains régionaux, très peu de bus. Anaïs n'a pas le choix, elle doit rouler plusieurs dizaines de kilomètres en voiture tous les jours. Pour cette salariée payée au SMIC, la remise de 18 centimes par litre.
C'est une bonne nouvelle, enfin. C'est vrai que 18 centimes, c'est énorme. Et pour moi, je ne gagne pas non plus énormément ma vie. Et que c'est vrai que ça fait vraiment une sacrée différence.
Le plein coûte environ 10% moins cher dès aujourd'hui. Insuffisant pour Daniel, père de 3 enfants.
C'est effectivement 18 centimes de moins, c'est mieux. Mais il faudrait que ça revienne à un prix correct. Donc je suis obligé, pour aller travailler, de mettre de l'essence.
Donc là, vous venez de faire 31 litres pour 60 euros à peu près.
Ouais, et ça fait mal à la tête, hein. Alors, on en a un peu marre de payer.
Car en plus de l'essence, il y a l'électricité, le chauffage qui augmente. L'État verse justement ce mois-ci le chèque énergie pour aider les plus précaires à payer leurs factures. Jean-Paul en bénéficie, il va toucher 100 euros.
Donc 100 euros, ça nous fait l'équivalent d'à peu près d'un mois et demi à peu près de gaz de ville. Ça nous aide un petit peu quand même. Mais bon, je pense qu'à mon avis, il va y avoir des hausses encore qui vont arriver par la suite, ça c'est clair.
Jean-Paul appréhende le moment où le gouvernement lèvera son bouclier tarifaire. Les prix du gaz sont gelés depuis l'automne dernier et pour l'instant, jusqu'à la fin de l'année, sur les marchés, le cours du gaz a augmenté de 30% depuis l'invasion russe en Ukraine.
Thomas Giraudeau.
Et le gaz russe, le robinet pourrait-il être coupé dès aujourd'hui, Laurence ? La question n'est pas saugrenue.
L'Allemagne et la France se préparent à un potentiel arrêt des importations de gaz russe à partir d'aujourd'hui, c'est ce qu'a déclaré Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, en déplacement hier à Berlin. Car à partir de ce vendredi, si les pays de l'Union européenne, considérés comme inamicaux par Moscou, veulent être réapprovisionnés en gaz, eh bien, ils devront régler leurs factures en roubles plutôt qu'en euros ou en dollars. Alors qu'en est-il des réserves françaises, Laurent Kramer ? Si l'été est sauvé, les prévisions pour l'hiver prochain sont pessimistes.
C'est en été que les stocks souterrains de gaz se remplissent pour l'hiver suivant. Remplir nos réserves sans gaz venu de Russie ferait à nouveau monter les prix. Une réduction de la consommation serait alors inévitable, souligne Thierry Brosse, spécialiste du gaz.
Sans gaz russe, nous ne sommes pas capables de satisfaire l'intégralité de la demande européenne comme française. Et donc, il faudra avoir une baisse de la demande au niveau européen de l'ordre de 10% sur les mois à venir pour passer l'hiver prochain.
Si les menaces du Kremlin étaient mises à exécution à défaut de reconstituer en totalité nos stocks cet été, des changements d'habitude seront nécessaires pour permettre de passer le cap
de l'hiver prochain, estime Nicolas Goldberg, spécialiste de l'énergie.
Chez les particuliers, il va falloir moins chauffer et plus se chauffer efficace. Il va falloir limiter son chauffage à 18-19 degrés et mettre un pull plutôt que chauffer à 23. Et on va potentiellement délester certains industriels. C'est ce qui nous attend.
Rempli à 25% aujourd'hui, les réserves souterraines de gaz en France permettent de tenir plusieurs mois.
Laurent Kramer, sur le front, cela fait maintenant 5 semaines que les Ukrainiens sont mobilisés. Il n'y a à ce jour aucun élément concret de recul ou de désengagement des forces russes, malgré les déclarations récentes du Kremlin. Les femmes et les enfants qu'ils pouvaient sont partis vers l'ouest. À Lviv, ville de déplacés près de la frontière polonaise, la vie des exilés s'organise sans les hommes. C'est un reportage de Thibault Lefebvre et de Benjamin Thuo.
Le dernier message du papa d'Anna date du 16 mars.
Il a écrit que maman et ma sœur allaient sortir de Mariupol, mais que lui devait rester. Et puis il a écrit « Je t'aime et prends soin de toi ».
Depuis, Dmitri ne répond plus au téléphone et Anna subit l'absence du père, soudaine, angoissante et certains jours insupportable, mais aussi ses nouvelles responsabilités, car avec la guerre, cette trentenaire est devenue chef de famille.
Ça oblige à en avoir. Quand tu te bats pour ta famille, c'est dur. On n'est pas habitué à vivre dans une société sans hommes.
Une comptine de printemps pour les familles de déplacés accueillies dans un centre dédié à proximité de la gare. Hier après-midi, il y avait autour de Nadia 5 femmes, 12 d'enfants, mais aucun homme. Nadia Ivantsif est psychothérapeute en charge de l'accueil des exilés.
Now, the father is a hero.
Pour le moment, le père est un héros. C'est le message.
I think it will be,
mais c'est ensuite qu'il faudra soigner la peur ou la haine. Actuellement, nous sommes là en soutien.
Une aide psychologique qui passe aussi par l'art. Sur les dessins accrochés au mur, les hommes représentés sont tous des soldats.
Un reportage signé Thibault Lefebvre et Benjamin Thuo.
Cette guerre en Ukraine vient bouleverser des élections cruciales en Hongrie.
C'est le scrutin sans doute le plus difficile de la carrière du nationaliste Viktor Orban, le premier ministre sortant au pouvoir depuis 12 ans et le favori des législatives de dimanche. Mais il a dû reconfigurer sa bonne relation avec Vladimir Poutine. Le leader conservateur la présente désormais comme une garantie de paix, pendant que l'opposition, pour la première fois, est unie face à lui. Elle pilonne son tropisme pro-russe et se tourne résolument vers l'OTAN et l'Union européenne à Budapest. C'est le reportage de Louise Baudet.
C'était il y a pile 2 mois, autant dire une éternité. Orban est à Moscou pour sécuriser son approvisionnement en gaz auprès de son ami Vladimir Poutine. Amitié mise en sourdine depuis, mais la proximité demeure. 2 mots-clés rythment désormais la campagne, paix et stabilité.
Cette guerre, on doit l'éviter. Aucun Hongrois ne doit se retrouver entre le marteau russe et l'enclume ukrainienne. Celui qui vote pour la paix et la sécurité de la Hongrie, vote Fidesz.
Un discours qui fait mouche auprès de Juliana, 76 ans.
Il ne faut pas plaisanter avec les Russes. C'est eux qui nous envoient leur gaz et leur pétrole.
Il faut rester complètement neutre, complète le mari, 78 ans, cœur de cible du Fidesz, hermétique aux arguments du leader de l'opposition, Peter Markizai.
Alors que l'armée russe tue des enfants, des femmes enceintes, Viktor Orban ne peut pas continuer à se tenir à égale distance des bourreaux et des victimes.
Peter Markizai se tourne, lui, résolument vers l'ouest et parie sur l'isolement de Viktor Orban.
Même ses anciens meilleurs amis polonais ne veulent plus lui parler parce qu'il se tient du côté de Poutine contre une Ukraine libre et indépendante.
La guerre a contraint chacun à reconfigurer sa campagne, mais son effet dans les urnes est incertain, alors qu'un électeur sur 3 dit ne pas avoir encore fait son choix. Budapest, Louise Baudet, France Inter.
Retour en France avec ce sondage IFOP commandé par la Fondation 30 millions d'amis. Pour 86% des Français, bien les candidats à la présidentielle doivent présenter des mesures pour améliorer le bien-être animal. Et les candidats l'ont plutôt bien compris dans l'ensemble. Cette question marginale, il y a encore 5 ans, est mentionnée aujourd'hui dans la quasi-totalité des programmes. À gauche, bien sûr, il y a des chapitres entiers chez Jean-Luc Mélenchon ou Yannick Jadot. Mais de l'autre côté de l'échiquier, on veut aussi planter son drapeau. Exemple avec Nicolas Dupont-Aignan, qui a présenté hier ses propositions. Élodie Forêt.
En exergue sur le tract, ce tweet de Brigitte Bardot, Nicolas Dupont-Aignan mériterait plus de temps de parole parce que son programme est très bon, c'est aussi un grand défenseur des animaux. Une fierté pour le candidat souverainiste qui, il y a 5 ans déjà, avait formulé plusieurs propositions pour favoriser le bien-être animal que l'on retrouve dans le programme actuel. L'installation de vidéosurveillance dans les abattoirs, un soutien financier aux refuges ou encore l'interdiction de consommer de la viande de cheval. À cela, Nicolas Dupont-Aignan rajoute la création d'un code de l'animal qui regrouperait toutes les législations existantes, l'interdiction aussi de l'abattage sans étourdissement en trouvant des compromis avec les cultes. À l'image de Marine Le Pen, rien en revanche sur la chasse, sur l'élevage intensif ou les animaux de cirque. Nous voulons réconcilier les gens, justifie Nicolas Dupont-Aignan, qui malgré tout se retrouve plutôt bien classé par Engagement Animaux, ce projet collectif créé par 22 ONG, devant la candidate du RN à l'extrême droite Éric Zemmour, est le moins bien noté.
Élodie Forêt, Jean Lassalle hier soir sur France 2 dans l'émission Élysée 2022. Si je suis élu, l'État, dit-il, paiera entièrement la formation des étudiants en médecine s'ils s'engagent en contrepartie à effectuer leurs 6 premières années dans les déserts médicaux. Jean Lassalle qui sera aujourd'hui dans l'Ain pour une visite de la moutonnerie de Villereversure. Et à 9 jours du scrutin, Anne Hidalgo appelle les socialistes, je cite, à ne pas raser les murs, à ne pas baisser la tête et d'être fiers. Car si nous n'avions pas été là, dit-elle, ce pays n'aurait pas été le même, déclaration de la candidate à l'Élysée dans le bassin minier de Liévin, dans le Pas-de-Calais.
Et après 6 ans de travaux, le musée Albert Kahn rouvre ses portes au public.
Et pour cette réouverture, ce musée situé à Boulogne-Billancourt expose des milliers de clichés pris autour du monde. Passionné de botanique, mais avant tout obsédé par l'idée de conserver une trace du monde, le banquier philanthrope avait pour ambition de raconter son époque, de laisser cet héritage aux générations futures. Et ces milliers de photos et de films, réalisés à travers tous les continents au début du XXe siècle, est un incroyable voyage, Isabelle Pasquier.
Pour abriter les trésors d'Albert Kahn, le grand architecte japonais Kengo Kuma a créé un écrin tout en transparence avec la poésie des sublimes jardins. Grâce à une muséographie très interactive, on découvre ce trésor vertigineux, les archives de la planète, les premières images de Palmyre, des rites vaudous au Dahomey et les toutes premières images couleurs de la guerre de 14-18. 72 000 autochromes, les premières photos couleurs, 4 000 plaques stéréoscopiques et 180 000 mètres de pellicules de film. Le banquier philanthrope a concrétisé son rêve, des archives pour créer un monde pacifié grâce à la connaissance de l'autre. David Schoen-Thomas, responsable des expositions.
L'objectif en fait d'Albert Kahn est de documenter le monde par l'image en recensant un monde qui est en cours de mutation et notamment de disparition à travers donc une mondialisation, une accélération notamment des modes de transport et de constituer une documentation pour les générations futures et surtout de servir des idéaux tels que le pacifisme ou le progrès pour les générations futures.
Le musée propose une exposition temporaire, la traversée des images autour du monde, le voyage avec sa dimension initiatique. Sur un mur, cette phrase d'Albert Kahn, « Je ne vous demande qu'une chose, gardez les yeux ouverts ».
Merci Isabelle Pasquier. Et qui seront les adversaires des Bleus au premier tour du Mondial de foot en novembre? Réponse ce soir à Doha avec le tirage au sort de cette Coupe du Monde au Qatar.
Un Mondial en hiver. Merci Laurence Thomas. Secret d'info dans 3 minutes. Les sanctions contre les oligarques russes en France, ces sanctions sont-elles efficaces?